La zizique, ça t'agrippe et te pique toutes tes lippes.
Et la musique, et la musique, va.
Tout pour la musique.
La musique, en vérité, la musique.
Let's face the music and dance.
Sur écoute, Elisabeth Chungi.
Bonsoir, vous êtes sur écoute et sous pression ce soir. Nous sommes en public au théâtre du Rond-Point à Paris dans le cadre du festival Mauvais Genre et nous sommes précisément à la recherche du mauvais genre musical. Vaste question. Si Frank Sinatra, que nous venons d'entendre dans le générique, était encore en vie, l'émission aurait été pliée en 1 minute 30. Le latin crooner avait en effet, dans les années 50, statué de manière définitive sur le rock'n'roll, la forme d'expression la plus brutale, moche, dégénérée et vicieuse. Mais Sinatra est mort et le rock encore bien en vie. La preuve s'il en est, il n'est pas en sous-genre. Alors passons au suivant.
Who's the black private dick that's a sex machine to all the chicks? You're damn right. The man that would risk his neck for his brother, man. Can you dig it? Who's the cat that won't cop out when there's danger all about? Right on. You see, this cat Chef is a bad mother.
Shut your mouth.
What I'm talking about, Chef?
Well, he can do it.
He's a complicated man, but no one understands him but his woman.
John Chef.
Inutile d'aller débusquer le mauvais genre musical dans les sous-genres cinématographiques, ce serait peine perdue et parfaitement contre-productif, car les séries B ont souvent engendré des musiques triple A. Vous venez d'entendre Isaac Hayes qui signa la BO de Shaft, film culte de la Blaxploitation, ce corpus de polar 100% noir des années 70 qui, dans un contexte de lutte contre les discriminations et sous couvert d'intrigues policières un peu vaseuses dans les rues de Harlem, contribuèrent autant que l'émission Soul Train à la diffusion des cultures afro-américaines. Pour leur BO, les réalisateurs mauvais genre de la Blaxploitation faisaient appel à la crème soul de l'époque, Curtis Mayfield, Bobby Womack et consorts. Et à ce propos, message personnel pour Quentin Tarantino qui a reçu hier à Lyon le prix Lumière. S'il devait un jour imaginer une suite à Jackie Brown, son film hommage à la Blaxploitation, prière d'insérer ce morceau du tout nouvel album de celle qui mérite bien plus que Beyoncé le titre de reine de la soul, Janelle Monae, un titre qui s'y étend à la volcanique Pam Grier, l'égérie de la Blaxploitation, Electric Lady. Nous sommes toujours au théâtre du Rond-Point à Paris en public dans le cadre du festival Mauvais Genre et nous sommes toujours à la recherche du mauvais genre musical. Nos regards et nos ouïes se tournent alors tout naturellement vers un genre musical affublé de toutes les tares. Oreilles sensibles, prévoyez les boules-quies. C'était le groupe suédois de black metal Shining. Le morceau s'intitule Du Mitt Kanzwerk, extrait de l'album The Rising Darkness. Inaudible, sataniste, pousse au crime, porté par des chanteurs à cheveux longs et gras qui vocifèrent et zonent dans les cimetières, que n'a-t-on dit sur le métal ? L'émission à la recherche du mauvais genre aurait donc pu une nouvelle fois s'arrêter prématurément si notre route n'avait pas croisé celle d'un prêtre français, Robert Kula, qui est fan du genre, qui a publié un livre sur le sujet, L'âge du métal, aux éditions Camion Blanc, et qui est catégorique. Le métal mène, sinon à Dieu, à une forme de transcendance. On l'écoute.
C'est en effet une musique qui a quand même souvent pour but de nous faire échapper, j'allais dire, à un monde totalement horizontal, un monde ordinaire, un monde banal. Et en effet, c'est une musique qui, quelque part, fait rêver et fait nous transporte dans un autre univers. Donc, qui a certainement, dans certains de ces styles, une dimension spirituelle indéniable. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, elle a un certain succès auprès d'une certaine jeunesse qui a, j'allais dire, un besoin d'infini, un besoin d'idéal. Après, que cette spiritualité présente dans cette musique à cause d'une ambiance, à cause d'une atmosphère, mène à Dieu, c'est une autre histoire. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut être spirituel sans croire en Dieu. Mais qu'il y ait une dimension transcendante, oui, dans certains styles de métal, ça je pense que c'est tout à fait vrai.
Le père Kula vit au Danemark et n'a pas pu se joindre à nous, mais nous avons invité quelqu'un qui va relayer le plus fidèlement sa pensée, puisqu'il a coécrit avec lui un nouveau livre, toujours aux éditions Camion Blanc, consacré à Opeth, groupe de métal suédois. Nicolas Bénard, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes historien, chercheur associé auprès du Centre d'histoire et de culture des sociétés contemporaines et auteur d'une thèse sur le hard rock. Alors, on va essayer d'éviter les caricatures ce soir, mais tout de même, avant de connaître le père Kula, cela ne vous a pas étonné qu'un prêtre s'intéresse un genre musical parfois franchement antichrétien, parfois dans le black metal particulièrement porté vers un satanisme, alors pas forcément cultuel mais culturel.
Non, ça ne m'a pas surpris parce que, après tout, c'est le propre, je crois, des hommes d'église de chercher à comprendre le monde dans lequel on vit, et notamment au travers de ces expressions musicales les plus contemporaines, ce qu'est le metal et le black metal, plus précisément. Après, je ne crois pas qu'il faille parler de satanisme dans le métal, plutôt d'imaginaire satanique. Là, je fais une vraie différence. Le satanisme, c'est un courant philosophique, un courant de pensée ou éventuellement une religion. Ça reste à définir, c'est assez complexe. Et je pense, et des études ont été faites là-dessus, que la plupart des satanistes n'écoutent pas de métal et sont en dehors de cet univers musical. Donc, pour revenir au métal, c'est un imaginaire sataniste. Effectivement, ce sont des références qui parfois d'ailleurs sont plutôt de l'ordre de l'ésotérisme que du satanisme, des références qu'on peut trouver dans d'autres pratiques, dans d'autres créations culturelles, voilà, telles que le cinéma, par exemple, la bande dessinée, etc.
On va essayer aussi, pour éviter les caricatures, de bien faire les distinctions. Il y a le métal et des milliers de ramifications. On s'intéresse plus particulièrement au black metal ce soir, qui est finalement la forme peut-être la plus mauvais genre en apparence.
C'est sans doute la forme la plus extrême d'un point de vue musical, d'une part, et du point de vue de l'imaginaire, d'autre part, puisque musicalement, vous avez pu en faire l'expérience il y a quelques minutes.
Et ce n'est pas fini.
Voilà, c'est une musique qui effectivement demande sans doute un petit peu de courage, un petit peu de motivation pour rentrer dedans, de par l'utilisation d'un chant extrêmement criard, de sonorités musicales assez bruyantes. Après, pour ce qui concerne l'imaginaire, effectivement, là aussi, contrairement à d'autres sous-genres du métal, qui sont plus sur des thèmes que j'appellerais dionysiens, hein, c'est-à-dire l'amour, on va dire rapidement, l'amour, l'alcool, le rock'n'roll, là, on est avec le black metal dans un imaginaire bien plus sérieux, qui fait appel à des références très diverses, philosophiques, littéraires, etc.
Puis il y a tout de même un décorum très mauvais genre dans le black metal. Certains groupes se sont vraiment appliqués à ne pas faire mentir les clichés. Le groupe norvégien Mayhem, par exemple, dont le chanteur enterrait ses vêtements dans des cimetières pour qu'ils soient imprégnés de l'âme des morts. Je vous passe les têtes de porc empalées sur scène, les suicides, les assassinats qui ont émaillé l'histoire du groupe. Tout ça contribue quand même à façonner cette image mauvais genre.
C'est une forme de mythologie effectivement assez morbide. On peut dire que c'est l'incarnation quelque part de la souffrance et de la mort, parce que cette image de la mort, cette image de la souffrance, en fait, n'est plus vraiment incarnée aujourd'hui. Et sans doute que les artistes qui évoluent dans cet univers, eh bien, qui n'ont pas trouvé d'autres réponses dans la religion ou ailleurs, eh bien, essayent de, par ce biais-là, par effectivement cet imaginaire très, très empreint de squelettes, de peintures de mort, etc., eh bien, essayent finalement de trouver leur propre réponse à la mort dans une société qui est incapable en fait, d'y répondre, au-delà de l'aspect purement religieux.
On va réécouter tout à l'heure justement le Père Hulla sur ce sujet, mais je voudrais qu'on s'intéresse à sa playlist, parce qu'il s'intéresse à des groupes qui mêlent... Il y a des nuances dans le métal, on va le comprendre très clairement. Il s'intéresse à des groupes notamment qui mêlent deux registres de voix, de climat, l'agressif, le mélodique, comme Shining, un petit peu qu'on a entendu tout à l'heure. Mais le plus bel exemple étant justement Opeth, à qui vous consacrez votre livre. Le titre que nous allons écouter s'appelle « Dirge for November », c'est le début du morceau et le cliché vole en éclat parce que ça commence presque comme une berceuse.
Love, here is nowhere, searching home still, turning past me.
On passe ainsi du mélodique à l'agressivité, il y a des variations de tempo, on pense au rock progressif hein, quand on écoute ce titre, encore pour dire à quel point on n'a pas affaire à un mauvais genre. Il ne s'agit clairement pas d'une musique binaire et primaire, mais d'une musique complexe. Il paraît même que dans les écoles de musique, c'est une des plus difficiles à apprendre.
Oui, c'est ce que disent les enseignants dans les écoles de musique que j'ai pu côtoyer dans le cadre de mes études ou mes recherches. C'est vrai que ça demande un investissement assez important, physique. Il est pas rare que les musiciens de black metal notamment aient des problèmes de santé assez importants. Je pense notamment aux des tendinites, puisque c'est une question de performance en fait. Il faut vraiment parler de performance, je pense, dans la musique métal. Imaginez de jouer ce type de musique pendant 1h30, 2h, sur des tournées qui sont très longues, qui peuvent durer plusieurs mois. Donc effectivement, il y a un concept de performance qui s'ajoute au reste dans cet univers.
Alors le métal s'épanouit particulièrement en Scandinavie. Je pense au groupe Satyricon qui a donné récemment un concert à l'opéra d'Oslo. Vu d'ici, c'est un peu le choc des cultures. Est-ce que vous avez une explication sur ce tropisme scandinave?
Oui, il y a l'explication, c'est que la Norvège, le black metal, on peut dire que le black metal est né en Norvège. Alors au départ, évidemment, les pouvoirs publics n'ont pas vraiment apprécié son développement parce qu'il y a eu un certain nombre d'affaires extra-musicales sur lesquels je ne reviendrai pas, qui n'ont pas grand intérêt. Mais effectivement, c'était une musique extrême qui n'a pas plu à ses débuts, mais qui s'est développée à l'extérieur du pays et qui est devenue hein, une véritable marque nationale, en fait. Hein. C'est vraiment, vous avez des petits stickers, des autocollants, au-dessus, c'est indiqué Black Metal de Norvège. Donc c'est vraiment une identité très, très profonde et évidemment, les pouvoirs publics ont défendu et accompagné ce développement. Et comme les groupes de Black Metal vendent énormément, eh bien, ils se sont rendus compte que peut-être que cet univers pouvait finalement être intégré dans différents événements, vous en avez cité un, mais il est très fréquent que des artistes de black metal s'associent, alors ils sont invités sur des plateaux de télévision, ils participent à des événements à l'opéra ou dans le cadre d'événements radiophoniques aussi par ailleurs. Donc c'est devenu une musique mainstream, contrairement à ce qu'on peut penser en France, mais c'est devenu une musique assez mainstream finalement, en Norvège notamment, mais dans d'autres pays aussi comme la Suède ou la Finlande.
Alors pour revenir à votre co-auteur le Père Hulla, ce qui peut surprendre aussi et paraître paradoxal venant d'un homme d'église, c'est son inclination pour un genre qui prône plutôt une forme de paganisme.
Alors là, c'est un autre phénomène, parce que le néopaganisme, il existe vraiment en dehors de la sphère métal. C'est un courant politique ou philosophique qui existe partout dans le monde. Il y a même certaines associations qui se revendiquent néopagaines. Mais il est vrai que dans les pays du Nord et dans un certain nombre d'autres pays, je pense aux pays slaves par exemple, à la Russie, à la Pologne ou même à l'Allemagne, eh bien, un certain nombre de groupes de métal ont associé à leur musique un discours véritablement néopaïen. Alors ça peut paraître contradictoire dès lors que c'est une musique extrêmement moderne, mais que les amateurs de ce genre prônent finalement une sorte de retour aux sources, de retour à la nature. Mais n'oublions pas qu'ils sont originaires de pays qui sont encore extrêmement...
Retour à la nature, ça veut dire que le black metal, c'est un mouvement écolo ?
Non, écolo, je dirais pas écolo, mais de par l'origine géographique de ces artistes, qui, je vous rappelle, viennent des pays baltes, de Pologne, de Finlande, donc qui ont l'habitude de vivre dans des zones rurales, eh bien, finalement, je pense que leur contact avec le monde beaucoup moins rural, qu'ils peuvent côtoyer aux États-Unis, au Japon ou même en Europe, comme en Angleterre, eh bien, leur fait penser que finalement, ils sont bien mieux chez eux, proches de la nature.
Alors on a compris que ce n'était donc pas un mauvais genre, mais tout de même, parfois il faut entrer en métal comme on entre en religion. On écoute un titre tout récent et on en reparle. Écoutez Centuries, groupe de metal hardcore originaire de Floride. Le titre, c'est Pessum Ire, terme latin qui évoque la destruction. Et l'album s'appelle Tedium Vitae, comme cet ennui existentiel conceptualisé par Sénèque, titre repris d'ailleurs par Oscar Wilde. Donc c'est très référencé, le metal. Et donc, pour en finir justement avec cette accusation de mauvais genre, il y a, oui, une portée philosophique dans le metal. C'est en tout cas l'avis de votre co-auteur, Nicolas Bénard, le Percula.
Le métal se veut vraiment, c'est vrai, une musique très réaliste et qui ne veut pas ignorer la réalité telle qu'elle est. Et donc, en général, c'est pour ça qu'on souvent dit que c'est une musique négative, parce qu'elle se fait en effet le miroir de tout ce qui, dans notre société, va mal et aussi de tout ce qui, dans la condition humaine, est dramatique. Et la mort, évidemment, au premier plan. Alors, après... on peut trouver dans certains groupes de métal une espèce de fascination pour la mort, de glorification pour la mort. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont très morbides, mais c'est pas propre au métal. Le romantisme noir, enfin, il y a toute une tradition culturelle, littéraire, qui traite de ce thème de la mort. Mais après, de manière plus large, c'est vrai que c'est cette finitude de la condition humaine qui est mise en avant. Et souvent de pair avec aussi le rappel que l'homme, finalement, est un animal. Il y a de l'animalité dans l'homme, mais que l'homme n'est pas qu'un pur esprit.
Vous rejoignez son point de vue, parce qu'il y a quand même une apologie du nihilisme aussi dans le métal, dans certains courants.
Oui, absolument. Effectivement, dans le genre black metal, on trouve très fréquemment l'apologie du nihilisme. Je suis parfaitement d'accord avec Robert Kula, et pas pour la seule raison que j'ai écrit ce livre avec lui. Mais il est vrai que c'est un sous-genre qui fait un effet de miroir et qui nous renvoie les images les plus négatives de notre existence. Mais je nuancerai en disant que ce sont des images qui ne sont pas réelles. Ce sont des dessins, ce sont des représentations. Ça peut être aussi des photographies, évidemment, des mises en scène, des postures qui sont parfois très violentes et choquantes. Mais n'oublions pas que ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce qu'on voit, par exemple, à la télévision tous les jours. Et je crois que c'est important de nuancer quand même cette mise en perspective, ce décalage qui existe entre le producteur, donc l'artiste, et son récepteur.
Pour en finir avec les clichés sur le métal et l'introniser définitivement genre noble, écoutez ce que rétorque le père Kula lorsqu'on lui fait remarquer que les paroles de métal sont parfois très violentes.
Le déluge, c'est violent. Dieu qui tue tous les premiers-nés des Égyptiens, c'est hyper violent. Et puis je pourrais vous citer peut-être un psaume, si vous voulez. Hein. Bon, voilà, je peux citer un passage d'un psaume. C'est dans l'Ancien Testament, ça fait partie de la Bible. Hein. Dieu brise leurs dents et leurs mâchoires, Seigneur casse les crocs de ses lions, qu'ils s'en aillent comme les eaux qui se perdent, que Dieu les transperce et qu'ils en périssent, comme la limace qui glisse en fondant, ou l'avortant qui ne voit pas le soleil. Plus vite qu'un feu de ronce ne lèche la marmite, que le feu de ta colère les emporte, joie pour le juste de voir la vengeance, de laver ses pieds dans le sang de l'impie. Ce ne sont pas des paroles de black metal, c'est dans la Bible.
Et voilà, pan sur le bec. Merci beaucoup Nicolas Bénard. Je rappelle le titre de votre livre, donc écrit avec le père Robert Kula, Opeth, damnation et délivrance. C'est publié aux éditions Camion Blanc. À la recherche du mauvais genre, la suite.
Je nage, je nage, je nage, je nage au milieu du potage.
Jeanne Chéral chante la petite soupe, et cette soupe dans laquelle on nage dans les radios commerciales, ce potage trop clair, mitonné parfois par des ados post-pubères au milieu de followers, c'est la variété, ces chansons guimauves qui collent aux oreilles comme le carambaro dans « Ne constitue-t-elle pas le mauvais genre absolu ?» Mauvais genre car sous-genre. Bon sang, mais c'est bien sûr, fûmes-nous tentés de dire, jusqu'à ce que l'on apprenne que ce titre servait de support pédagogique en cours de philo.
On ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi. On ne change pas, une veste ne cache qu'un peu de ce qu'on voit. On ne grandit pas, on pousse un peu tout juste le temps de rêve d'un songe. Il est touché du doigt, mais on n'oublie pas l'enfant qui reste presque nul et s'instinct d'innocence. Quand on ne savait pas, on ne change pas, on attrape des ailes.
Vous avez reconnu ou pas Céline Dion, le titre c'est « On ne change pas », Céline Dion évoquée dans un cours de philo tabernacle. L'auteur du forfait s'appelle Marianne Chaillant et elle est parmi nous. Bonsoir Marianne Chaillant. Vous enseignez la philosophie au lycée Saint-Joseph de la Madeleine à Marseille, ainsi qu'à l'université d'Aix-Marseille. Vous allez prochainement publier aux éditions Ellipse Harry Potter à l'école de la philosophie et vous faites partie des intervenants de la semaine de la pop philosophie qui démarre ce lundi à Marseille. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous ce qu'est la pop philosophie ?
Alors, la pop philosophie s'oppose à l'idée que la philosophie ne serait digne que si elle restait dans sa tour d'ivoire, tour dans laquelle les philosophes bâtiraient des sortes de cathédrales conceptuelles où nul n'oserait pénétrer. Justement, la pop philosophie pense au contraire que la philosophie est pensée de son temps, qu'elle doit se confronter avec tout ce qui peut faire objet de réflexion, à savoir les jeux vidéo, les séries télé, les films, les bandes dessinées, etc.
Certains disent que c'est la philosophie du pauvre. Vous répondrez que c'est la philo qui s'adapte à l'esprit du temps, c'est ça ?
Bon, je trouve leur position très, très méprisante. C'est vrai, j'ai lu cet été encore des critiques très virulentes de la pop philosophie. Généralement, on reproche deux choses à la pop philosophie. De soumettre la philosophie au règne du divertissement, d'abord, et puis ensuite d'oublier les grands textes philosophiques. Et je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon de voir, au contraire.
C'est vrai que vous vous servez de Céline Dion dans vos cours, mais voilà. Pas seulement. Céline Dion vous amène vers les grands textes philosophiques. Alors justement, cette chanson « On ne change pas » que nous venons d'entendre et dont vous servez en cours, quel a été le déclic pour convoquer la star Céline Dion chez les philosophes ?
Alors j'étais en train d'essayer d'expliquer un texte de David Hume, sorti du traité de la nature humaine, très complexe, où Hume se demande à quoi réfère ce que nous appelons le « moi ». Et la thèse de Hume, c'est que le moi n'est qu'une collection de perceptions qui se succèdent à une vitesse telle qu'elles peuvent produire la fiction de l'identité. Vous imaginez que dit comme ça, quand j'ai 30 lycéens devant moi, j'ai 30 personnes qui sont en train d'agoniser. Alors, soudainement, m'est venue l'idée, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à ce texte de Jean-Jacques Goldman, c'est Jean-Jacques Goldman qui a écrit ce texte, et je me suis mis le plus sérieusement du monde, à la manière de Fabrice Luchini, à réciter le texte de Jean-Jacques Goldman. Alors, bon, ça a eu le premier bénéfice, c'est que j'ai capté tout d'un coup l'auditoire qui a éclaté de rire, et bon, ils étaient plus disposés à recevoir, à entendre quelque chose. Et puis, je leur ai montré que le problème dont parle Jean-Jacques Goldman dans ce texte, ils le comprennent, ils le conçoivent, ils leur parlent, et que c'est le même dont parle David Hume. Et alors là, j'ai réalisé quelque chose d'extraordinaire, c'est que parfois, Céline Dion pouvait réussir là où David Hume échouait.
Alors, vous allez donner une conférence dans le cadre de la semaine de la pop philosophie ce jeudi 24, au Centre international de poésie de Marseille, conférence intitulée « La playlist des philosophes ». Quel principe avez-vous adopté ?
Eh bien, alors, je me suis demandé si nos philosophes, nos grands philosophes, avaient eu ce qu'on appelle un iPod. Quelles chansons ils auraient mis dans leur playlist ? Et donc, je commençais par me demander quelles chansons on trouvait dans l'iPod de Platon. Et j'ai fait l'hypothèse que Platon aurait probablement aimé le SOS d'Intérêt en détresse de Daniel Balavoine. Je suis rentrée dans l'iPod de Heidegger, je vais rentrer dans l'iPod de Lucrèce, et à chaque fois, je vais découvrir des chansons qui se font l'écho des thèses de ces philosophes.
Alors, dans l'iPod de Marx, on trouve encore lui, Jean-Jacques Goldman. Avec cette histoire de cordonnier, on est pourtant loin du grand capital, Marianne Chaillon.
Et pas tant que ça, en vérité. Alors, Jean-Jacques Goldman, je le trouve à la fin de mon cheminement sur Marx et sur la notion de travail. Goldman, me semble-t-il, apporte une réponse proche de celle de Marx à la question de savoir à quelles conditions le travail peut-il cesser d'être une aliénation, un asservissement, et se faire condition de l'humanité même. De l'accomplissement en l'homme de son humanité. Là, Jean-Jacques Goldman, qu'est-ce qu'il nous dit, en fait ? Ces hommes ordinaires dont parle Jean-Jacques Goldman, le cordonnier qui était un simple cordonnier, le professeur qui était un simple professeur, le musicien, ils sont ordinaires, mais ils ont quelque chose d'extraordinaire. Ils aiment leur métier, ils ont la passion, ils considèrent que leur métier n'est pas un moyen en vue d'autre chose, mais une fin en soi. Et c'est pour Marx la seule condition qui permet d'avoir un rapport au travail de telle manière qu'il ne soit pas source d'asservissement.
Voilà, donc une chanson que vous opposez d'ailleurs au poinçonneur des lilas, qui fait des petits trous toute la journée.
Voilà,
qui représente cette aliénation au travail. Et on termine avec une chanson, Chaillon, qui n'est pas de la variété, mais qui est populaire, hein, puisqu'elle figure dans l'album qui truste le sommet du hit parade, comme on disait dans les années 80. C'est la formidable chanson de Stromae qui s'appelle justement Formidable.
Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas. Hé, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Stromae, qui pour vous, Marianne Chaillon, figure dans la playlist de Schopenhauer? Quel rapport avec l'auteur du Monde comme volonté et représentation? Chez Schopenhauer, on passe aussi vite de formidable à formidable.
Et oui, hélas, sauf que chez Schopenhauer, ça s'appelle souffrance et ennui. Chez Stromae, il oppose donc le formidable au formidable. Alors vous allez me dire, il y a quand même du formidable dans la vie, oui. Mais hélas, chez Stromae, le formidable dégénère nécessairement en formidable. Il est pris dans un devenir formidable et il n'est même que le passage d'un formidable à l'autre. Ainsi, chez Stromae comme chez Schopenhauer, on apprend qu'il faut faire le deuil d'une certaine conception du bonheur.
Ouais, le bonheur n'est au fond que l'absence momentanée d'une insatisfaction.
Alors vous pourriez me dire que quand même il y a des choses dans la vie qui méritent d'être vécues, comme l'amour, qui peuvent donner un sens à la vie, mais comme dans l'extrait qu'on vient d'entendre, qui met en scène un personnage qui vient de faire l'épreuve d'une rupture amoureuse. Stromae entend nous déniaiser si nous avions encore quelques illusions à l'égard de l'amour. Il n'y a pas d'amour heureux.
Et alors, dans certaines chansons de Stromae, comme « Alors on danse » d'ailleurs, on pourrait voir Pascal.
Oui, alors là, c'est plutôt Pascal, parce que si vous vous souvenez, chez Pascal, on a ce beau concept de divertissement. Qu'est-ce que c'est le divertissement chez Pascal? C'est toute activité qui consiste à détourner le regard. De quoi? De cette pensée de la mort qui vient. Il y a cette pensée de Pascal qui est terrible, qui dit « Le dernier acte est semblant, quelque belle que soit la comédie en tout le reste, on jette de la terre sur la tête et en voilà pour jamais. Bon, » c'est assez terrible, on préfère ne pas penser à ce genre de choses. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se divertit. On se divertit, y compris dans des choses extrêmement sérieuses, par exemple en écoutant sur écoute. C'est du divertissement au sens fort, pascalien, très sérieux. Mais c'est vrai que ça nous empêche, le temps d'une émission, de penser que nous allons mourir.
C'est déjà beaucoup,
c'est déjà pas mal. Et je dis souvent à mes élèves que préparer le bac, c'est du divertissement. Je pense pas qu'ils ont du mal à me croire, mais c'est du divertissement aussi. Eh bien, chez Stromae, il va pas dire « alors on se divertit », mais il dit « alors on danse ». Et Pascal lui-même parle de danse. Le roi danse, dit Pascal. Tout roi qu'il est, il a besoin de divertissement. Un roi sans divertissement est un homme plein de misère.
Voilà donc un échantillon de votre playlist des philosophes. Et que répondrez-vous à ceux qui reprocheraient tout cela d'être un petit peu simplificateur?
Eh bien, je leur dirais que la pop philosophie n'est pas du tout à l'égard de la philosophie ce que le langage SMS est à l'orthographe. Au contraire, la pop philosophie est une certaine manière de nous amener à la philosophie. C'est une certaine manière de faire de l'orthographe. Le but ultime de la pop philosophie, c'est bien d'aller vers le texte et non pas de se substituer à lui.
Et la morale de l'histoire, donc, c'est puisque la variété nous mène à la sagesse, alors non, ce n'est pas un mauvais genre. Merci beaucoup, Marianne Chaillon. Vous allez prochainement publier aux éditions Ellipse Harry Potter à l'école de la philosophie et vous faites donc partie des intervenants de la semaine de la pop philosophie qui démarre lundi à Marseille. Allez, au suivant! God save the queen, God save the American dream. Et on retrouve Jean-Daniel Beauvallet pour une vision très personnelle du mauvais genre, puisque chez lui, ce n'est pas l'adjectif qui compte, mais bien le nom, le genre tout court. C'est Brighton Calling, c'est la chronique in rock de la semaine.
Hello, hello, bonjour. Depuis mon bunker de Brighton, je m'inquiète, moi aussi, d'appartenir à la sous-famille d'une sous-famille d'un sous-genre. Imaginez un peu l'angoisse, être fan d'un mauvais genre, comme le rock, et de voir en plus, dans cette famille de basse extraction, se réfugier dans une sous-faction. Ça ne doit pas être très glorieux, aux yeux des tenanciers, droit dans leurs bottes, de la culture haute. C'est bien simple, plus j'écoute de disques qui me font vibrer, et moins je sais qui je suis. À une époque, celle de mon enfance, tout était nettement plus simple. On écoutait du rock, on était un rocker, on écoutait du hard rock, on était un hardos, on écoutait du punk rock, on était un punk, on écoutait de l'électropop, on était un new wave, on écoutait de la variété française, et on était la honte de la classe. Non, je rigole. Bref, on était ce qu'on écoutait, et on se déterminait en fonction des musiques que l'on chérissait. Tout était nettement plus simple. Simplé même quand débarquaient des musiciens trop complexes, trop libres, pour échapper à cette sale manie du rangement dans les petites cases. Une habitude sans doute prise dans les magasins de disques où il fallait bien ranger et ordonner les rayons. Et oui, il y avait encore des magasins de disques. Mais depuis que la musique se vend comme il se doit, en vrac, sans chef de rayon, on ne sait plus à quelle famille on appartient, à quel sein se vouer, comment s'habiller, qui fréquenter. C'est l'angoisse! Car il existe aujourd'hui quasiment autant de genres musicaux que de groupes intéressants. On ne parle pas ici des pleutres, des suiveurs qui se contentent de vivre à l'étroit dans une petite case, bien à l'ombre de leurs influences, bien coincés dans leur son et leurs dogmes. Non, on parle ici des artistes sur lesquels les étiquettes n'adhèrent pas. Ceux qui ne suivent personne, qui n'en font qu'à leur tête, comme par exemple les mystérieux Darkseid. C'est décidément une bien vilaine habitude pour décrire ce genre de musique, se rassurer en la reliant forcément à une tradition. On tente encore et toujours de l'affilier à une famille déjà installée. On a peut-être trop cherché à appliquer à la musique ce vieux principe qui veut que rien ne se crée et tout se transforme, comme disait DJ Lavoisier. Et du coup, notre manie du rangement est allée trop loin. À force de mettre des étiquettes rassurantes sur tous les nouveaux groupes, micro-mouvements et sous-ramifications de ces genres déjà durs à suivre, on est arrivé à un sabir sans espoir, sans espéranto, car ça devient carrément n'importe quoi sur le front des 7 familles, devenues plutôt 7000 familles. Entre le post-dubstep narcotique, la néo-techno-progressiste ou la post-pop onérico-mélancolique, on comprendra que le public finisse par se perdre. On comprendra qu'il est, le pauvre, l'impression que sa plateforme de téléchargement a disjoncté et s'exprime désormais en une langue étrangère et mystérieuse. « Reboot, reboot » implore-t-il alors en exigeant le retour de ses 7 familles traditionnelles. On oubliera donc de chercher forcément à classer, ranger, ordonner quand débarquent des groupes aussi réjouissants et imprévisibles que London Grammar. Ils sont comme Monsieur Jourdain, ils pratiquent allègrement le postmodernisme sans se soucier d'appartenance, d'ascendance ou de descendance. Ils sont ici, c'est 2013 et ils font de la musique. Ça nous suffira largement comme description.
And so you build a life on trust, though it starts with love and lust. And when your house begins to rust, oh, it's just metal and dust. We argue, we don't fight. Begins to rust. Oh,
Même le très renseigné Jean-Daniel Beauvallet n'a pas su nous mettre sur la voie du mauvais genre. Alors que le découragement nous guettait, nous avons croisé la route du groupe Demi-Mondaine. Un nom qui sent le soufre, un magnifique postérieur tatoué et dénudé sur la pochette de leur EP Private Parts, et des titres qui pour certains ne font pas dans la dentelle. On écoute Zombie. Nous accueillons ce soir Béatrice, l'auteur, compositeur, interprète du groupe Demi-Mondaine. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Je reviens sur cette chanson qu'on vient d'entendre, qui est accompagnée d'un clip très SM, cuir, domination, dans la chanson, et une évocation de londinisme. Enfin, c'est trash, c'est sexe, c'est mauvais genre, c'est revendiqué, c'est assumé.
Oui, c'est totalement assumé. Mais je trouve pas ça du tout trash, en fait.
Après, on pourrait faire une autre émission sur la définition. L'esthétique du trash pourrait constituer la thème de la prochaine émission. Mais déjà, dès le nom, vous affichez la couleur quand même. Demi-Mondaine, c'est quand même un nom qui sent le soufre, voire le stupre. Comment vous est venue cette idée ?
Je l'ai trouvé dans un bouquin de Sacha Massoc qui s'appelle La Vénus à la fourrure. C'était la première page.
Oui.
J'ai trouvé que c'était très joli. Et en plus, ça ne se traduit pas en fait en anglais. Ça reste demi-mondaine en anglais aussi.
Demi-mondaine, c'est aussi l'évocation de la cocotte.
C'est des putes. Mais c'est tellement plus joli de s'appeler demi-mondaine que tous les autres noms.
C'est un nom qui vous fait fantasmer en quelque sorte.
Ouais.
Et qui est destiné à faire fantasmer le public aussi.
Ah oui, tout à fait. Je pense qu'on est là aussi pour prendre du plaisir et faire rêver. Mmh. C'est pour ça qu'on fait de la musique ou de la radio.
Pour ça, est-ce qu'il n'y a pas non plus aussi une forme d'exhibitionnisme dans la scène ? Par exemple, souvent sur scène, vous apparaissez un peu, beaucoup, passionnément, décolleté. Là, vous êtes vêtue d'une magnifique, très courte robe fourreau léopard, barésie. C'est vrai qu'il y a ce côté théâtral chez vous. D'ailleurs, comme il y avait chez Iggy Pop qui vous a prêté une de ses chansons, la filiation est évidente.
Ouais, tout à fait. C'est mon parrain.
Oui. Comment ça s'est fait cette rencontre ?
On s'est rencontrés sur un tournage à Paris et on s'est reconnus, je pense.
Oui.
J'ai beaucoup de chance.
C'est aussi simple que ça. Il y a quand même de Béatrice, j'allais vous appeler Demi-Mondaine, mais non, c'est le nom du groupe, et d'ailleurs le guitariste Mystic Gordon n'est pas très loin. Il y a quand même une idée du mauvais genre dans votre filiation, non ? D'un côté Iggy Pop, de l'autre l'underground parisien, les bars interlopes, là où vous avez commencé, où vous aimez toujours jouer.
Oui, je trouve que mauvais genre, c'est plutôt un joli nom d'ailleurs, c'est assez chouette. Ça ferait une belle chanson, un joli nom d'album. Ouais. Je trouve que tout est très lisse aujourd'hui, tout est très politiquement correct. Je trouve que tout le monde s'emmerde, on s'ennuie, c'est chiant. Oui, mauvais genre, ça fait du bien un peu.
Et alors, de quelle manière vous pensez être mauvais genre, vous ?
Je ne suis pas mauvais genre, c'est juste que j'ai envie. On va tous mourir, comme le disait. Et l'idée, c'est de prendre du plaisir avant cette fin, d'oublier qu'on va mourir justement en prenant des divertissements, en chantant, en jouir de la vie, quoi.
En même temps, il y a quelque chose de très écorché dans vos textes.
Oui.
Donc c'est un peu antinomique avec cette envie de plaisir avant tout.
Oui, il faut contrecarrer les aléas de la vie.
Et vous le faites sur scène, dans une posture...
Passionnément.
D'extravagance, d'outrance.
Oui, j'ai envie de ça aujourd'hui. Mmh. Peut-être que ça ne durera pas. Mmh.
Vous me disiez avant l'émission que vous aimeriez pouvoir changer d'identité tous les 6 mois.
Oui, changer de tête, d'identité, je pense que c'est plutôt chouette.
Vous tentez de financer aujourd'hui, donc vous avez sorti un EP, vous tentez de financer votre album sur une plateforme participative du web. Les mauvais esprits seraient tentés de penser que cette image mauvais genre que vous véhiculez relève d'une posture marketing. C'est plus facile de glaner des sous sur le web quand on s'appelle demi-mondaine, peut-être.
Oui, on n'est pas encore très... Ça va venir. Pour l'instant, en fait, on a fait appel à notre public pour pouvoir réaliser un nouvel album, vu qu'on n'avait pas de maison de disques, etc. Et que, a priori, pour l'instant, on ne fait pas partie des créneaux de chansons françaises actuelles qui passent en radio. Voilà, je ne fais pas du Jean-Jacques Goldman.
Vous ne faites pas quelque chose de lisse?
Non, c'est juste pas possible. Ça m'ennuierait que mes enfants travaillent sur Jean-Jacques Goldman à l'école. Je préférais qu'ils travaillent sur Imbrel. Mais ça, c'est...
Ou sur Stromae.
Oui, pourquoi pas.
On va écouter justement, Béatrice, le fameux titre que vous a prêté Iggy Pop, qui s'appelle Private Parts.
Oui.
Enfin, je reviens à cette esthétique tout de même dans ces private parts qu'on a entendu en live, à cette esthétique que vous mettez en avant, le léopard, les barésies, tout cet imaginaire là, ce n'est pas anodin.
C'est assez sexuel, assez sulfureux, c'est assez animal. Moi, j'ai envie de jouer avec moi, avec ce que je suis aujourd'hui. Mm-hmm. Et comme je disais tout à l'heure, ça peut très bien changer, je peux très bien évoluer, et je profite de ce que je suis aujourd'hui maintenant. Mmh. Voilà.
Il y a quand même aussi un aspect mise à nu sur scène, non ? Être sur scène.
Mais de toute façon, être sur scène, que ce soit au théâtre, en chanson, c'est une mise à nu. Alors, se déshabiller à côté, c'est rien. Enlever ses fringues, c'est rien.
Vous avez gagné récemment le concours Zebrock. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui aujourd'hui, il y a un mouvement qui vous sort de l'underground un petit peu. C'est quelque
un
chose
peu,
qui
ouais.
vous fait peur ou qui vous
non,
fait plaisir ?
Au contraire, j'ai très envie de passer en radio. J'ai très envie d'aller faire mes courses au supermarché et d'entendre un titre demi-mondaine pendant que je suis au rayon légumes. Je trouverais ça génial. Et qu'on écoute un peu autre chose que ce qu'on entend aujourd'hui à la radio. Je ne dis pas qu'il n'y a que de la merde, mais enfin bon, il y a des choses bien quand même.
Que cette fameuse soupe que chantait Jeanne Chéral tout à l'heure.
Oui, alors c'est un parti pris, là, c'est pas pareil. Je pense qu'elle c'est fait exprès.
Oui, c'était un clin d'œil, évidemment. Voilà. Alors, nous allons justement nous quitter avec un de vos titres interprétés en live. Donc oui, on va pouvoir écouter de la bonne musique sur France Culture avec Demi Mondaine, donc qui va nous interpréter Paris sous la neige. Mystic Gordon, votre guitariste, s'installe
mon héros
sur la scène avec votre sac à main très d'Adam.
Oui, ça lui va très
bien. C'est pas du tout mauvais genre, ça.
Non, mais moi j'aime beaucoup les choses chic aussi.
Voilà, je vous laisse vous installer. Vous allez nous interpréter Paris sous la neige.
Allez, merci. Moi, je ne suis que moi, mon souffle dans le temps. Et le jour qui se lève, il me brûle à nouveau. Il va, revient au galop. J'ai mon cœur malade. J'ai un empire fragile, mais un empire charmant à croiser nos chemins. Nous nous rendons habiles, même si je sais déjà que mes yeux pleureront. Comme j'ai déjà pleuré, c'est pour ça qu'on boit. À Paris, sous la neige, c'est Paris merveilleux. Paris, sous la neige, c'est un Paris somptueux. Porte à mes lèvres le nom de ce dernier, je t'oublierai demain. Déchiré sur ta peau, le poil, l'écorchure et nos encres en dérive. Comme toi, comme moi, la gueule dans le vin et notre désolé. Je sais, car je connais cette histoire par cœur et son goût malassé, et c'est pour ça qu'on boit. À Paris, sous la neige, c'est Paris merveilleux. Paris, sous la neige, c'est un Paris somptueux. C'est un Paris somptueux. Je ne vis qu'à l'ivresse, je ne me plains pas, je lève mon verre et bois. Oh putain, y'a toi, oh putain, y'a toi. Je me plains pas, je lève mon verre et bois. Oh putain, y'a toi. 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 Oh putain, Paris, sous la neige, c'est Paris merveilleux.
Voilà, c'était Demi-Mondaine, Paris sous la neige, en live au Théâtre du Rond-Point à Paris, sur écoute spéciale Mauvais Genre, c'est fini. L'émission a été réalisée par Perret Legras, préparée par Anne de Biran et Guillaume Couture. À la technique, Étienne Leroy, Clotilde Thomas et Benjamin Thuot, chargé de production Roland Dandalex. Merci aussi à Antoine Vuillose, à la discothèque de Radio France. On se quitte avec un autre groupe au nom très mauvais genre, un groupe électropunk, La Chatte. Le titre s'appelle Xanax, extrait de l'album Crash Océan qui vient tout juste de sortir. La Chatte, Xanax, à la semaine prochaine.
Xanax.